Vous écoutez RTL.
RTL, 7h45, Philippe Corbet, vous recevez ce matin le Premier ministre.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
On va évoquer dans un instant les attaques terroristes de Copenhague, mais d'abord cette profanation de centaines de tombes juives en Alsace. Est-ce que vous avez des informations ce matin, des informations nouvelles sur l'enquête, et peut-être un début de piste ?
Non, pas à ce stade. Et j'espère que l'enquête va pouvoir avancer vite, parce que comme beaucoup de Français, j'éprouve un profond dégoût quand on casse des tombes, quand on remue la terre... d'un cimetière, ce sont les fondations mêmes de notre République, de notre société, de notre civilisation qu'on déstabilise. Et ceux qui ont fait ça...
Vous dites ceux, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça ne sera probablement pas un seul individu qui casse autant de tombes ?
Sans aucun doute, l'enquête va le montrer, mais en quelques heures, on a violé des centaines de sépultures. Ceux qui ont fait cela vont savoir qu'on ne trouble pas impunément le sommeil des morts. C'est un acte antisémite. Il n'y a aucune excuse et donc il faut la répression la plus forte qui soit. Après les événements que nous avons connus, après que dans les rues de Paris, on ait crié il y a quelques mois « mort aux Juifs », après qu'on ait tué des Français juifs parce qu'ils étaient juifs, après ce qui s'est passé à Copenhague, la République, une nouvelle fois, doit être impitoyable à l'égard de ceux, quel que soit leur âge, vis-à-vis de ceux qui se sont livrés à de tels actes.
Vous n'hésitez pas à parler d'actes antisémites et de faire le lien avec les attentats terroristes récents. Je voudrais vous soumettre une déclaration du président du Conseil représentatif des institutions juives. Il dit « j'en ai marre de ces attaques ». Vous comprenez que beaucoup de juifs en France, en Europe, en aient marre au point de se demander s'ils ne vont pas partir s'installer, émigrer en Israël, ce que leur suggère d'ailleurs une nouvelle fois le Premier ministre Netanyahou après les attentats de Copenhague.
Mon message aux Français juifs est le suivant. La France est blessée, comme vous, et la France ne veut pas votre départ. La France vous dit une nouvelle fois son amour, son soutien, sa solidarité. Cet amour est bien plus fort que les actes de haine, fussent-ils répétés. Et la maison des Français juifs, c'est la France. Je regrette d'ailleurs les propos du Premier ministre Netanyahou. Quand on est en campagne électorale, ça ne veut pas dire s'autoriser à n'importe quelle déclaration. La place des Français juifs, c'est la France. La preuve, la plus terrible qui soit, symbolique, c'est que leurs cimetières sont en France. Donc nous devons tout faire, et nous le faisons, et ils le savent, pour les protéger. Mais notre force est de rester unis. Notre force est de résister face à ce message de haine. Et ce qui s'est passé dans ce cimetière, c'est bien sûr un message de haine. Et un juif qui part de France, c'est un morceau de France qui s'en va. Donc, c'est ce rassemblement autour de ceux qui sont aujourd'hui victimes de cette haine, autour des juifs victimes de l'antisémitisme, c'est ce rassemblement qui est plus que jamais nécessaire. Je trouvais il y a quelques jours, au fond, que l'esprit du 11 janvier, parce que c'est ainsi, le débat politique, l'actualité...
Il s'était effacé.
Il était en train de s'effacer. On voulait vite nous faire tourner la page. Non, la menace, elle est là. La haine, elle est toujours là. Et donc, pour la combattre, il faut rester éveillé. Il faut que les consciences restent éveillées. Il faut que notre détermination à combattre et le terrorisme et la haine et tout ce qui divise notre société, que cette détermination, pas celle du gouvernement, elle l'est totale, elle l'est absolue. Celle du président de la République, celle du gouvernement, celle
d'Union nationale,
de la représentation parlementaire.
Il faudrait que l'Union nationale revienne.
Ça va au-delà. Tous les Français, et moi j'en appelle à chacun d'entre eux, doivent non seulement être vigilants, mais déterminés à lutter contre tous ces messages de haine.
Deux jours après les attentats de Copenhague, est-ce que les autorités danoises ont transmis à la France des éléments qui laisseraient penser qu'en plus du caricaturiste, l'ambassadeur de France qui était présent dans la salle était lui aussi visé ?
Laissons les Danois travailler sereinement et avancer dans cette enquête. L'ambassadeur lui-même ne pense pas avoir été visé, mais ce qui était visé par un mimétisme absolu, c'est la liberté d'expression. Il y avait là un débat non pas sur l'islam, mais sur la liberté d'expression auquel participait Lars Vilks, l'un des caricaturistes danois, une fémène, notre ambassadeur, des hommes de culture, l'un d'entre eux, un réalisateur, est mort, tué par les balles de ce terroriste. Donc on visait la liberté d'expression, comme on a visé aussi des policiers, comme on a visé les juifs, puisqu'on s'est attaqué à une synagogue qui recevait une cérémonie religieuse et que le vigile, celui qui surveillait cette synagogue, a été également tué, c'est-à-dire les mêmes symboles qu'on a voulu abattre, atteindre en France il y a quelques semaines.
Vous parlez de mimétisme, on est tous frappés par ce mimétisme avec le profil des Kouachi et de Koulibaly. Ça montre aussi que la menace terroriste reste très élevée partout en Europe et donc chez nous en France, menace contre la liberté d'expression, contre la communauté juive. Est-ce que vous allez donc prolonger la mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre qui avait été décidée après les attentats début janvier devant des centaines de lieux en France ?
Cela fait plusieurs mois, sinon plusieurs années, que je dis, que nous disons avec le président de la République, avec Bernard Cazeneuve depuis quelques mois, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, que la menace est particulièrement élevée en Europe et donc en France. Et elle le reste particulièrement élevée dans notre pays, je crois que chacun l'a compris. C'est pour cela, oui, qu'il faut faire face en mobilisant ce que nous faisons à travers le plan Vigipirate.
Vous allez prolonger ?
Mais je l'ai déjà dit, nous prolongerons ces moyens autant que nécessaire, tant que la menace reste élevée. Et il faut dire la vérité aux Français. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, notamment au Parlement ou sur vos antennes. Cette menace, elle reste particulièrement élevée et il faut, je n'aime pas dire ce mot, mais au fond, cela traduit bien mon esprit. Il faut s'habituer, si on peut s'habituer à cela, à vivre avec cette menace et avec cette menace terroriste qui est le fruit d'organisations internationales, particulièrement barbares, comme Daesh, ou Al-Qaïda, mais aussi d'individus radicalisés qui sont sur notre sol, qui sont des Français et qui peuvent retourner leurs armes, leurs couteaux, leurs armes à feu contre nous, contre des militaires, contre des citoyens.
On entend bien votre détermination, Manuel Valls. Ça pose tout de même un problème de moyens. Les syndicats policiers, les spécialistes des questions militaires disent, après un mois de mobilisation exceptionnelle, notamment de 10 000 soldats, on ne sait pas comment on va pouvoir régler tout bêtement un problème de planning. Comment est-ce que vous allez régler cette question des
tous
moyens ?
Tous les moyens sont mobilisés, le seront gendarmes, policiers, militaires, et je salue évidemment leur engagement dans cette mission.
Il y en aura davantage pour assurer toutes ces
mais
fonctions.
Est-ce que nous avons un autre choix ? Évidemment qu'il n'y a pas de risque zéro, mais comme l'a dit Bernard Cazeneuve, 100% des moyens pour faire face au terrorisme doivent être mobilisés. Le plan Vigipirate reste toujours à un niveau très élevé, en Ile-de-France, dans les Alpes-Maritimes, mais partout il est à un niveau très mobilisé. Les préfets sont tous mobilisés pour être très attentifs, pour qu'on ne baisse pas la garde. Les décrets d'application de la loi antiterroriste, votée au mois de décembre, ont été pris avec beaucoup de rapidité. Je pense notamment à l'interdiction de voyager vers les terres du djihad et à la possibilité de bloquer les sites internet. Et nous sommes en train de préparer, elle est dans sa phase maintenant ultime, la loi sur le renseignement qui avait déjà été prévu avant les événements, mais qui donnera plus de moyens à nos services de renseignement. Nous nous retrouvons pour les derniers arbitrages autour du président de la République mercredi prochain. Celui-ci d'ailleurs, avec le Premier ministre et avec les ministres concernés, recevra l'ensemble des groupes parlementaires. Et ce texte a dû être déjà envoyé au Conseil d'État pour qu'il puisse être examiné en Conseil des ministres dans quelques semaines, débattu, je présenterai moi-même cette loi, ce printemps, à l'Assemblée nationale. Il faut aller vite pour donner encore plus de moyens à nos services de renseignement.
Manuel Valls, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de l'islam de France ou de l'islam en France ?
Pour combattre cet islamo-fascisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer, l'unité doit être notre force, je le rappelais. Il ne faut ni céder ni à la peur, ni à la division. Mais il faut en même temps poser tous les problèmes. Combattre, bien sûr, le terrorisme, mobiliser la société autour de la laïcité, combattre l'antisémitisme, et c'est tout l'engagement de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, au sein de l'école, parce qu'il n'est pas supportable que des gamins considèrent que leur ennemi, c'est le juif, et répandent ce message antisémite. Et en même temps, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est faire en sorte qu'il y ait un débat au sein de l'islam. C'est pas qu'un débat en France.
Aujourd'hui, les autorités musulmanes ne prennent pas ses responsabilités.
Je n'ai pas dit ça. Regardez le débat qu'il y a dans l'islam, dans le monde. C'est un débat qui a lieu au sein même de l'islam pour combattre ceux qui agissent au nom de cet islam dévoyé. Donc, il faut, oui, former autrement les imams. Refuser ces imams qui nous viennent de l'étranger. Refuser les financements
les
de l'étranger.
Les former dans des universités françaises ?
Les former dans des universités françaises. Bien les former. C'est eux qui ensuite devront être dans les mosquées pour
mais
diffuser
comment on fait ça
un message
avec la loi
de
1905 ? C'est interdit avec la loi de 1905 ?
Non, je pense qu'on peut trouver des moyens sans toucher à la loi de 1905,
par exemple,
sans
toucher
au principe même de la laïcité. Donnez-nous encore quelques jours. Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-Belkacem sont en train d'y travailler.
Les former, mais par exemple, en Alsace, où s'applique le Concordat ?
C'est une des possibilités, mais je pense qu'il faut désormais une rupture. Il faut que l'islam de France assume, prenne totalement ses responsabilités, C'est ce que demande d'ailleurs l'immense majorité de nos compatriotes musulmans qui n'en peuvent plus eux aussi d'être non seulement la cible d'attaques qui sont elles-mêmes insupportables, mais d'être confondus avec cette terreur.
Manuel Valls, les auditeurs pourront continuer à vous interroger si vous le souhaitez, s'ils le souhaitent, sur ces questions tout à l'heure au 3210. Sur l'économie et la politique, une déclaration importante de Benoît Hamon au grand jury hier soir sur RTL. Il était votre ministre il y a encore 6 mois. Il annonce qu'il votera contre la loi Macron. Il ne va pas s'abstenir, il va voter contre. C'est rare et c'est une sorte de provocation, au fond, que des députés socialistes votent contre un texte du gouvernement socialiste.
À ce stade, je ne peux pas l'imaginer. 4 semaines de débats à l'Assemblée nationale, en commission ou dans l'hémicycle, qui ont permis d'améliorer, de renforcer un texte qui est là pour soutenir l'activité, l'emploi, l'investissement et la croissance. Un texte qui est positif pour les salariés, puisqu'il renforce le contrôle du travail illégal dans le bâtiment, puisqu'il met fin aux dérives des retraites chapeaux des mandataires sociaux, puisqu'il confère de nouveaux droits aux salariés travaillant le dimanche dans le commerce de détail, puisqu'il protège les locataires ayant une personne âgée à charge, puisqu'il rend accessible l'épargne salariale aux salariés des PME. Vous voulez que je continue ? C'est un texte qui soutient l'activité et qui en même temps protège. Et quand on est parlementaire de la majorité, député socialiste, on s'abstiendrait ? On voterait contre ce texte ? Non. Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. C'est un texte important, pas pour la majorité. C'est un texte important pour notre économie. C'est un texte important pour les Français.
Qu'est-ce qui va se passer si demain, ils votent contre ? Qu'est-ce qui se passe demain ?
Dans ces moments-là, particulièrement graves, chacun doit être à la hauteur des responsabilités. Nous le sommes, ceux qui gouvernent. La majorité et l'opposition l'ont été il y a un mois. Donc, quand on est en plus un député de la majorité, quand on est un ancien ministre, on assume ses responsabilités. Moi, je ne suis pas là pour menacer, je suis pour rappeler que les Français nous regardent.
Vous espérez le faire changer d'avis ici demain ?
Que l'exigence des Français, cette exigence, c'est que nous nous comportions autrement, pas comme avant, avec nos petites divisions, nos petites querelles, nos préparations de congrès. Tout ça est balayé. Tout ça est balayé par les événements que nous connaissons. Le débat, il continue. L'unité, ça n'est pas la fin de la discussion, de la confrontation, puisque précisément, c'est la démocratie qu'on a voulu viser. Mais quand on a été ministre, quand on est parlementaire, quand on a la chance, l'honneur de gouverner ce pays, on assume ses responsabilités et après le débat, on respecte et le débat du Parlement et la majorité des députés socialistes qui ont fait un travail extraordinaire autour d'Emmanuel Macron, avec le président de la Commission, François Brottes, avec le rapporteur, Richard Ferrand, avec tous les rapporteurs qui venaient d'ailleurs de la diversité du Parti Socialiste, qui ont défendu, oui, la possibilité de travailler le dimanche, 12 fois par an. C'est ça qui fonde une différence. C'est ça qui fonde la différence entre les socialistes. Personne ne peut le croire. Alors, les postures, c'est fini. Maintenant, on assume ses responsabilités et on vote un texte qui va dans l'intérêt général des Français.
Les postures, c'est fini. Donc, je pense que Benoît Hamon aura entendu ses déclarations. Si vous souhaitez interroger le Premier ministre à propos du travail du dimanche et des dispositions aussi sur les licenciements, vous pouvez nous appeler tout de suite au 3210. Il y répondra juste après le journal de 8h. On vous retrouve dans quelques minutes. Manuel Valls.